Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis la Galicière à Châtes, dans un lieu qui nous accueille ce soir pour faire une table ronde. Autour de moi, il y a pas mal de monde. Et donc, c'est une table ronde qu'on a imaginée avec le parc naturel du Vercors et la compagnie Nomade. Une table ronde qui s'appelle « Le Vercors, un territoire en transition touristique ». Donc, on va discuter de cette grande thématique. Cette table ronde, on l'a imaginée en quatre parties. Et donc l'idée, c'est d'explorer comment des projets artistiques peuvent accompagner, stimuler ou encore incarner la transition touristique. Et donc tout ça, on ne peut pas parler de transition touristique sans parler des enjeux de durabilité, de lien au territoire ou encore de renouvellement des imaginaires. Et donc on va en discuter tout au long de la table ronde. Donc en première partie, on va faire une petite introduction, présenter un peu le travail artistique du côté du parc. Donc cette volonté, donc ça c'est Marie-Odile Baudrier qui va nous en parler. Ensuite, on va parler vraiment de la transition touristique pour le Vercors. Et donc ça, c'est plutôt côté parc, c'est Emmanuel Bosque qui nous en parlera. On fera un petit tour de table des différents acteurs socio-professionnels du tourisme qui sont là, pour vous demander aussi, vous, comment est-ce que vous vivez ça. Et puis ensuite, troisième partie, on va s'intéresser au travail de Nomade, la compagnie Nomade. Comment est-ce que les artistes peuvent participer au renouvellement des imaginaires touristiques dans un territoire comme le Vercors. Donc là, ça va être un terrain d'étude. Et puis après, il y aura une discussion ouverte avec le public. On aura quelques questions. Ça sera un petit temps d'échange qu'on sera ravis de partager avec vous. Et donc, pour commencer, première partie, je voulais tout d'abord commencer par faire un petit tour de table des différentes personnes qui sont présentes. Donc si vous pouviez vous présenter, dire à quelle structure, si vous faites partie d'une structure, et sinon, quelle activité vous faites en lien donc, avec cette table ronde, s'il y a un petit écho aussi en une phrase qui vous vient. On peut commencer à ma gauche.
Oui, bonjour, Véronique Renaud. Donc, j'ai la structure qui s'appelle Les Granges du Fournel à Saint-Lathier, qui est un lieu d'hébergement. C'est également un lieu de ressourcement et d'accompagnement de l'être dans toutes ses dimensions, au pied du Vercors.
Merci.
Bonjour, Emmanuel Bosque. Je travaille au sein du parc du Vercors, au service tourisme. Et je travaille avec des communes, des communautés de communes, des acteurs touristiques pour les accompagner sur des projets, un petit peu sur le thème d'aujourd'hui, hein, ces évolutions un petit peu touristiques.
Bonjour, je suis Marie-Odile Baudrier, je suis une élue au parc chargée de la culture.
Bonjour, moi je suis Elisabeth Renaud, je représente le groupe de musique Nomade et j'ai participé à cette résidence de territoire avec le parc naturel régional du Vercors.
Bonjour, je suis Thomas Ledoux, je suis responsable du couvent des Carmes, qui est un lieu patrimonial et aussi culturel, qui appartient à l'intercommunalité de Saint-Marcellin.
Bonjour, je m'appelle Marine Champal, je suis accompagnatrice en montagne sur le territoire du parc et je participe à la tournée L'Horizon pour s'étendre du coup avec Nomade.
Bonsoir, Nadia et Jean-Pascal Crouzet. Nous sommes hébergeurs et nous sommes ce soir les mandataires de l'association Les Amis de la Galicière qui vous accueille dans ce lieu patrimonial à Châtes.
Merci beaucoup. Donc, merci pour cette présentation. On va passer donc à la présentation de Marie-Odile. Donc, moi, j'avais envie de te demander qu'est-ce que ça représente au sein d'un parc naturel et régional, cette volonté de faire des résidences artistiques. Ce n'est pas la première fois que vous en accueillez, que vous en impulsez. Et donc voilà, je voulais vous demander de nous raconter un peu cette histoire-là, de ce lien entre un parc naturel régional et les arts.
Oui, alors c'est une vaste question. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un parc naturel régional, et le parc du Vercors en particulier, est animé par des enjeux qui sont forts. Et en particulier pour nous, un des enjeux, c'est la transition d'une manière générale, transition économique, écologique, mais aussi la transition touristique. Et plutôt que d'avoir une approche technique sur cet enjeu fort et sur la sensibilisation qu'on veut amener par rapport à cet enjeu, on a eu une approche sensible, donc une approche par la culture, d'une part, et d'autre part, parmi des projets culturels, on a voulu aussi avoir une approche avec des arts vivants, d'où cette résidence artistique de longue durée depuis 18 mois.
Et c'est, je crois, pas la première fois que vous accueillez des artistes en résidence, puisque depuis 2019, il y avait d'autres compagnies déjà présentes. Est-ce que, juste en une phrase, vous pourriez nous raconter un peu les différents projets qui ont eu dans le passé au sein du parc naturel régional du Vercors ?
Oui, mais en une phrase, ce sera difficile, parce qu'on en a eu beaucoup. Je pourrais évoquer, par exemple, les 50 ans du parc. Quand on a fêté les 50 ans du parc du Vercors, donc c'était en 2020, on a fait appel en 2019 à une compagnie qui s'appelait le Dans tes rêves, c'est son nom exact. je l'ai noté, un appel à manifestation. Oui, c'est ça, Dans tes rêves, simplement. Voilà, une compagnie normale. Et le but, c'était un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ça a eu une ampleur plus grande, mais c'était un petit peu ça, c'est-à-dire que la compagnie artistique a eu une résidence pendant plusieurs mois, est allée à la rencontre des habitants du Vercors, quels qu'ils soient, les gens qui travaillent, les gens qui hébergent. Et en faisant cette traversée du Vercors, ils ont en même temps fait une création artistique, voilà, sur de la musique, sur des photos. Et il en est suivi ensuite, en 2020, ce qu'on a appelé la traverse. Voilà. Mais bon, 2020, c'était le Covid, ça a été un petit peu compliqué, mais les choses se sont faites. Et c'était une manière aussi de sensibiliser le public, tout public, à la fois des enfants, des adultes, des travailleurs, au fait qu'on était dans un territoire exceptionnel. Et c'était pour nous une expérimentation, hein, de partir sur une sensibilisation, non pas par des conférences scientifiques, voilà, mais par des artistes, voilà, qui savent amener un autre regard, hein, sur notre territoire et le faire partager avec les habitants.
Oui, et puis la singularité des arts vivants, c'est ça aussi, c'est de faire appel à différents sens. C'est aussi... On va en parler plus longuement quand on discutera du travail de nomades, mais travailler sur ses imaginaires et vraiment se faire embarquer par ce que peuvent amener les arts, ce que peuvent pas forcément amener d'autres médiums de sensibilisation. Évidemment, tout ça, c'est complémentaire, et c'est aussi pour ça que dans votre tournée, j'imagine, il y a différentes formes aussi qui sont apportées. Il y a des balades aussi naturalistes, mais on aura le temps d'en rediscuter. Et donc on a commencé à parler de transition touristique. Évidemment, ce mot, on peut y mettre beaucoup de choses. Et donc, moi, j'avais envie de te demander, Emmanuel, donc toujours pour le parc, qu'est-ce que vous entendez par transition touristique, et encore plus transition touristique pour le Vercors? D'où on part et où on va dans ces grandes questions, dans ces grandes thématiques?
Là, on est dans le complexe. Peut-être pourquoi il y a une transition déjà? Parce qu'il ne va pas échapper qu'on a une nouvelle équation à résoudre, hein, dans le monde. Il y a l'urgence climatique, on est dans le régime de l'urgence climatique. Et quand on adjoint une crise sanitaire là-dessus, une crise économique, une crise financière par exemple, donc ça fait une sorte de cocktail qui est assez détonnant et qui est extrêmement perturbant, qui peut être vertigineux. Mais malgré tout, il faut quand même pouvoir travailler. Donc le tourisme, il doit prendre sa part dans ce changement. Donc il doit se mettre en transition, c'est le seul mot qu'on a pu trouver. Mais l'idée, c'est que finalement, ce tourisme, il permet toujours la découverte d'un territoire, mais qu'il ait en tête la question de la préservation des ressources de ce territoire et trouver ces points d'équilibre entre visiteurs et habitants. Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux de responsabilité qui sont de plus en plus forts lorsqu'on fait du tourisme. Et surtout, ce qui est le plus difficile à accepter, c'est qu'on ne pourra plus faire comme avant. Voilà, c'est ça. Donc il faut inventer des nouvelles formes un petit peu de tourisme où la notion de responsabilité, elle est centrale. Et on doit davantage tenir compte des impacts du tourisme sur la vie sociale d'un territoire, sur son économie, sur les impacts environnementaux au sens large, hein, depuis la biodiversité jusqu'à l'eau, par exemple. Et donc une attention aux impacts, mais une attention aux besoins du territoire également. C'est quoi les besoins des habitants, de cette communauté d'accueil qui fait de l'accueil touristique? Quels sont les besoins des visiteurs aussi? Parce que les visiteurs, le touriste lui a changé aussi. Il ne voit pas le monde de la même manière. Il a envie de certaines choses, des fois qu'on ne peut pas lui amener. Donc il faut comprendre que c'est une relation. Il y a les besoins des professionnels du tourisme également. On ne peut pas, sur un claquement de doigts, dire « bon, ben, ça, c'est fini maintenant ». Quand il y a une construction économique qui s'est faite sur 50, 40, 60 ans... virage, on ne le prend pas en mettant le clignotant à droite et on tourne, donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Et il y a des besoins environnementaux aussi. Voilà, donc tout ça, ça fait une équation avec... C'est pas qu'il y a des inconnus, enfin si, il y a beaucoup de critères dans l'équation, mais le monde de la science et de la connaissance, il a beaucoup travaillé là-dessus, il nous donne des éclairages, donc on ne part pas de rien. Donc derrière cette transition, c'est une notion de processus. C'est une construction collective, donc il faut faire davantage de collectif. Donc derrière peut-être des mots-clés, c'est la solidarité, la réciprocité, l'équilibre. Et peut-être, comment se dire, aussi les échelles de temps différentes. À mon échelle, je peux faire des choses tout de suite sur la transition touristique. Tu nous le diras peut-être dans ton activité d'hébergeur. Quand on dézoome un peu à l'échelle d'une commune ou d'une com-com ou d'une filière touristique, c'est un peu plus difficile. Lorsqu'on se met à l'échelle du territoire, ben, il va falloir plus de temps. Et tout ça doit vivre ensemble.
Et justement, pour une institution comme le Parc naturel régional du Vercors, comment est-ce que vous faites pour travailler de concert avec tous ces acteurs ? Qu'on parle des socioprofessionnels du tourisme, qu'on parle des habitants ou des communes, peut-être, par exemple. Est-ce que vous avez une méthode ? Comment est-ce que vous avancez ?
Alors, on a une chance incroyable dans le Vercors, c'est que c'est un territoire qui a fait le choix de prendre le label Parc naturel régional depuis 1970. Et ça, c'est... je suis au Savoyard et il n'y a pas de parc en Haute-Savoie. Et donc, c'est une autre approche en Haute-Savoie. Et dans le Vercors, on sent que d'avoir pris le label Parc naturel régional, ça induit une forme de... je dirais presque de retenue, de réflexion supplémentaire, des recherches d'équilibre à avoir davantage. Donc on va dire qu'il y a un terreau qui est fertile là-dessus, de la part des habitants, des socioprofessionnels, des élus. Et il y a un tourisme qui est quand même plutôt équilibré dans le Vercors. On n'est pas à Méribel. On n'est pas dans des lieux voilà, qui sont différents. Donc il y a un terreau qui est assez fertile. Et là-dessus, le rôle du parc, c'est peut-être... ça a été aussi de travailler sur une charte du parc. La charte du parc, c'est la feuille de route. Travailler avec les communes, les communautés de communes. Et ça, c'est un outil qui est important. Ce n'est pas un outil qui nous dit ce qu'on doit faire, c'est un outil qui nous dit il vaut mieux aller dans telle direction parce que ça sera bon dans le territoire. Et après, à chacun, professionnel, commune, communauté de communes, habitants, associations, d'essayer. Voilà. Et le rôle du parc là-dedans, ben, c'est de rendre cela possible, créer les conditions pour que des projets apparaissent, pour accompagner, pour trouver des ressources, que ce soit de l'ingénierie, de l'encadrement, de l'argent aussi, parce qu'il faut de l'argent pour faire cela, et finalement de continuer à être dans ces enjeux de la transition, comment la qualité de vie pour les habitants peut être là, et comment on pourrait la partager avec des visiteurs, avec cette notion de préserver.
Je voudrais compléter ce que dit Emmanuel par le fait que là, on a une nouvelle charte. Elle a été signée par le Premier ministre là au printemps 2025 et donc qui nous fixe justement des axes pour les 15 ans à venir. Voilà. Et dans cette nouvelle charte, il faut savoir que les communes voilà, pouvaient adhérer ou ne pas adhérer à cette charte. Il se trouve qu'on était 83 communes adhérentes au parc. Lorsqu'on a fait des ateliers sur cette charte depuis des années pour construire cette nouvelle charte, les 83 communes qui étaient présentes ont adhéré toujours, il y a une continuité à ces projets de territoire et nous avons donc depuis quelques semaines 15 communes de plus qui ont adhéré à cette charte. Donc c'est vraiment une volonté du territoire, des habitants de ce territoire et les élus qui représentent les habitants, voilà, d'aller vers cela.
Ouais, ça m'amène vers cette idée que on parle de transition touristique, mais il y a aussi quelque chose d'assez stimulant dans la notion de transition touristique, c'est qu'il y a des projets qui peuvent apparaître également. C'est pas forcément quelque chose de réducteur, en fait. Une transition, ça peut être stimulant. On peut avoir plein de choses. Là, il y a plein de choses qu'il va falloir imaginer et on va peut-être pouvoir en parler plus tard. Et je voulais aussi insister sur cette notion d'attachement parce qu'en fait, j'ai l'impression que les habitants, comme les touristes, comme les socioprofessionnels, on partage cet attachement pour ce qui nous entoure, pour ce Vercors qui nous entoure, quoi. Et je voulais commencer un petit tour de table des socioprofessionnels du tourisme qui sont à notre table. Donc il y a des hébergeurs, il y a aussi toi qui es accompagnatrice. J'avais envie de vous demander, vous, à votre échelle, de votre point de vue, quel est le regard que vous portez sur le tourisme depuis que vous pratiquez votre métier ? Et peut-être qu'il y a eu des évolutions dans ce tourisme, peut-être que les gens attendent différemment, ont envie d'autre chose. Est-ce que vous avez un petit retour d'expérience à nous faire là-dessus, assez brièvement ? On peut en discuter aussi, on peut faire des retours.
Alors, j'accueille des personnes depuis maintenant une dizaine d'années.
Ah, ça m'a
C'est un petit retour d'expérience. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est vraiment le besoin de venir se poser, de trouver une parenthèse, de trouver une respiration. C'est des mots qu'on a beaucoup vu écrits et qui ont fleuri dans les plaquettes, mais c'est vraiment une réalité profonde. Et on voit des gens qui arrivent avec même un corps tendu. Dans les premiers échanges, souvent, il y a quelque chose à accueillir en tant qu'hébergeur, parce que les gens arrivent, ils ont peut-être fait 800 km. Il y a beaucoup de Néerlandais en ce moment, par exemple, chez nous. Donc, ils font des longues routes. Ils arrivent sans connaître la région, donc il y a cette dimension d'inconnu également. Donc, il y a quelque chose qui se veut, pour ma part en tout cas, accueillant et rassurant. Et puis, dans les mots que tu as pu utiliser, Emmanuel, ou qui ont déjà circulé autour de cette table, j'ai cueilli les mots sensibilité, responsabilité et équilibre. Et dans les propositions d'accompagnement et de séjour, je crois que ce sont des mots clés, parce que quand on arrive tendu de nos vies professionnelles hyperactives, qui sont pleines de trop de choses, quelque part, la sensibilité, elle est abîmée. Et il y a quelque chose là à restaurer. Et ça passe d'abord par déposer et refaire de l'espace. Et pour ça, le territoire du Vercors, c'est un territoire magnifique, extraordinaire. Extraordinaire.
Donc toi, ça, c'est vraiment en tant qu'hébergeuse que tu ressens ça. Et quel type d'hébergement, justement, est-ce que vous proposez
Nous, on a à la fois des petits gîtes et des chambres d'hôtes.
Donc, vous accueillez un public familial.
Tout à fait.
Ça a toujours été constant. Enfin, ce public familial, j'ai l'impression qu'on le retrouve quand même souvent dans le Vercors, dans les profils de tourisme qu'il peut y avoir.
J'en suis même très touchée. Moi, je trouve très beau de voir ces familles fonctionner, se donner de l'espace, se donner des temps entre elles, se retrouver, en fait. Dans leur construction, dans leur histoire familiale, de venir passer une semaine là, dans le Vercors, pour nourrir l'énergie de la famille, ça, je trouve ça magnifique. Encore cette semaine, j'étais touchée par une famille belge, mais splendide.
Oui, moi je veux bien rebondir, du coup ça me fait écho aussi ce que tu dis, donc moi je travaille beaucoup avec un public enfant qui vient sur des centres en vacances dans le Vercors. C'est vrai que je trouve que l'ADN du Vercors, c'est un petit peu cet accueil des enfants et c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu aussi au fil des années. Et j'aurais un regard un petit peu plus ambivalent dans le sens où, effectivement, je vais côtoyer des familles qui vont venir se retrouver, comme tu le dis, mais il va aussi y avoir un public qui va être dans des activités de consommation d'activités. Et c'est là, je trouve, tout l'enjeu, en fait, de travailler en tant qu'accompagnatrice sur ce territoire. Ça va être de créer du lien justement avec les acteurs, les habitants. Et voilà, ça peut être sur des sorties où on va valoriser des produits de personnes qui travaillent juste à côté ou d'aller visiter des fermes, par exemple. Voilà, c'était un petit peu mon regard.
Et dans ce que tu apportes, justement, dans ces sorties, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique ? Est-ce que tu as des axes de préférence ? Est-ce que tu as des thématiques que tu abordes régulièrement ? Ou qui font écho, d'ailleurs, peut-être aussi aux enfants ?
Alors, je suis accompagnatrice, mais je suis aussi conteuse. Et c'est vrai que, voilà, quand on parle du sensible, pour moi, une sortie réussie, c'est à partir du moment où la famille ou l'enfant ou juste l'adulte a réussi à créer un lien positif avec le territoire. Ça peut passer par l'imaginaire, donc par le conte, mais ça peut être aussi, voilà, cet après-midi avec David Rebaud, on a animé un atelier avec des familles pour découvrir les papillons. Parler de l'impact du réchauffement aussi sur ces espèces, sur les prairies, et de pouvoir les observer de près en les respectant, et puis d'aller dans le détail, de voir la beauté de ces êtres tout petits et de les dessiner. Donc c'est là toute l'expertise de David, bah, du coup, ça a fait un joli cocktail qui permet de créer un lien sensible avec ce qu'on observe.
Ouais, c'est aussi prendre le temps de s'attarder et amener les personnes à prendre ce temps-là, à venir se poser, regarder une prairie, les richesses d'une prairie. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez, nos hôtes pour ce soir, la Galicière, avoir un petit apport là-dessus ?
Je voudrais tout d'abord dire qu'on regrette vraiment de ne pas faire partie du parc du Vercors.
Achat, vous n'en faites pas partie ?
Ben non. Nous, on nous a rappelé sur les terres Saint-Genèse où vous étiez hier que nous sommes en face du Vercors et pas dans le Vercors.
Je voudrais dire quand même que le parc naturel du Vercors a des villes portes, voilà, et que voilà, Saint-Marcellin fait partie
du parc,
est une ville porte du parc.
D'accord, très bien. Je souscris entièrement et je pense qu'on s'inscrit complètement dans l'éthique, on va dire, que vous avez définie. Je me retrouve aussi vraiment dans vos propos. Simplement, nous, ce ne seront pas tout à fait les mêmes mots-clés. Nous, ce sera plutôt la préservation, mais bien entendu du patrimoine. Et où je vous rejoins, c'est sur la préservation aussi des autres qui, je suis tout à fait d'accord avec vous, arrivent plutôt chargés. Alors nous, on a la chance de pouvoir leur faire un électrochoc dès le départ, qui fait que... Il respire.
Est-ce que vous pourriez nous parler de la singularité de ce lieu ? Parce que pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas la Galicière, c'est un lieu quand même qui est particulier, qui est chargé d'histoire, et que vous êtes en train, et que vous avez déjà d'ailleurs transformé, réapproprié.
Ah oui, alors la Galicière est une ancienne usine de moulinage de la soie qui date de la fin du XVIIIe siècle. Voilà, et qui a la particularité en fait d'avoir gardé ces machines qui datent de la Révolution française, qui sont toujours là, qui n'ont jamais été enlevées, et donc qui sont un patrimoine, on va dire une capsule de temps qui témoigne de cette activité qui a été florissante au XIXe siècle sur le territoire. Voilà, et c'est un site complet puisque toute la production du fil de soie y était présente. Voilà. C'est un site patrimonial qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques de ce fait.
Et comment est-ce que vous avez pu combiner cet accueil de tourisme dans un site comme celui-ci ? Comment est-ce que vous êtes réapproprié les lieux et comment est-ce que les visiteurs, les visiteuses rencontrent ce lieu, s'en étonnent peut-être aussi ?
Alors il y a deux choses. Il y a notre activité d'hébergeur. Hein. Nous avons deux chambres d'hôtes, donc un petit hébergement pour l'instant, mais qui ne demande qu'à croître. Et ensuite il y a l'association avec ses activités culturelles qu'on essaye de développer chaque été pour accueillir du public et pour partager ce site avec le plus grand nombre, puisqu'il s'y prête.
Est-ce qu'il y avait d'autres retours sur cette manière dont on a de recevoir, d'accueillir le tourisme ? Peut-être sur les évolutions aussi, du côté de Beauvoir ?
Oui, du côté de Beauvoir, pour ma part, c'est un peu particulier. Enfin, en tout cas, par rapport à cette table ronde, moi, j'héberge personne.
Oui.
Les gens ne sont que de passage. Pour autant, je les accueille, on les accueille. Avec cette particularité d'être sur un lieu ultra patrimonial, parce qu'on est un vieux couvent du XIVe siècle, au cœur d'un village médiéval, etc. Et donc, on a... J'entendais des mots-clés aussi qui font sens. Moi, je suis assez d'accord avec cette idée que la transition n'est pas une notion négative. C'est pas que de la destruction, c'est pas que arrêter de faire. C'est aussi de la résilience, c'est aussi de la mutation, c'est aussi aller voir un peu à droite ce qui se passe ou un peu à gauche ce qui se passe et pas rester dans son état de fait. Voilà. Mais en tout cas, il y a aussi, dans cette notion de responsabilité, il y a aussi une notion discursive qui est importante. Qu'est-ce qu'on donne à voir de notre territoire ? Qu'est-ce qu'on donne à partager ? Qu'est-ce qu'on donne à réfléchir aussi sur ce qu'on a envie de discuter ? Quels que soient les enjeux. Aujourd'hui, les enjeux sont éminemment inscrits autour du touristique, autour du culturel ou de l'environnemental. Voilà, quand on définit une programmation, on peut se servir du bâtiment historique, puisque ça va amener un propos en soi, mais ce qu'on va y mettre à l'intérieur va aussi alimenter les conversations, le fait de rester, le fait de s'intéresser au territoire,
Oui, donc, parce que vous accueillez une programmation culturelle assez dense quand même. Est-ce que c'est saisonnier d'ailleurs ?
On est ouvert d'avril à novembre, voilà, pour respecter les notions environnementales et de ne pas chauffer ce bâtiment du XIVe siècle pendant l'hiver, qui serait une aberration. mais pour autant, on est ouvert en continu d'avril à novembre.
Ok, et on n'a pas parlé justement de la saisonnalité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui évolue ? Est-ce que vous constatez une certaine évolution dans la fréquentation touristique et même peut-être dans le rapport d'aller à la rencontre, de rencontrer ce territoire ?
En termes de séjour, ce que l'on constate tous, et les indicateurs nationaux le partagent, le mesurent, on va quand même de plus en plus sur des séjours qui se raccourcissent. Le séjour une semaine est un peu en perte de vitesse. On est plutôt sur des 3 à 4 jours en durée moyenne, statistiques nationales. Et ça se reflète aussi au cours des dernières saisons. Donc c'est un petit peu, à l'intérieur de cet espace qui se réduit, il y a se prendre le temps, se concentre finalement. Donc c'est pas un challenge, mais il faut d'autant plus prendre le temps, j'ai envie de dire.
Ouais, et c'est aussi prendre le temps d'habiter, même si on est de passage, d'habiter quelques jours, une semaine, un peu plus, ce territoire du Vercors. Et quand on dit habiter, évidemment, on parle de vivre, travailler, se déplacer, rencontrer, et peut-être aussi ouvrir des imaginaires. Et donc on va aller tout doucement vers cette question des imaginaires. Et donc quand on parle de ce grand mot imaginaire, on en entend souvent parler en ce moment, c'est un mot qui est un peu à la mode. Et donc moi je voulais juste préciser que ce sont des ensembles de représentations, de valeurs, des normes sociales qui influencent nos perceptions, nos décisions et nos comportements envers notre environnement. Donc notre environnement, c'est le sens large, hein. Les gens qui nous entourent font partie de notre environnement aussi. Et donc ils sont façonnés par plein de choses, ces imaginaires, ils sont fascinés par notre éducation, par les médias, par les politiques publiques, à différentes échelles évidemment, par des récits culturels et évidemment par les arts. Les arts jouent un rôle assez crucial dans la manière dont on se construit, on renouvelle aussi, parce qu'il faut les renouveler, ces imaginaires, ils sont en constante évolution. Et donc là, on va commencer à parler un petit peu de ça, notamment dans cet imaginaire et ces représentations culturelles de la montagne, puisque le Vercors ne fait pas partie des hautes montagnes. Et donc moi, je voulais commencer à discuter du travail de la compagnie du groupe Nomade. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce travail de résidence et puis peut-être présenter qui vous êtes pour les auditeurs, les auditrices qui ne vous connaissent pas encore de cette démarche singulière ?
Alors Nomade, c'est d'abord un groupe de musique qui a à peu près 23 ans. On était jeunes étudiants, enfin certains d'entre nous étaient jeunes étudiants et on s'est rencontrés à Grenoble en fac de musicologie. Voilà, ça s'est commencé comme ça. C'est un groupe durable finalement, on pourrait dire les choses comme ça. Aujourd'hui, 23 ans après, on est 5 musiciens, musiciennes. On propose depuis une quarantaine de chansons un spectacle acoustique qui s'appelle « Des oiseaux la nuit ». C'est depuis 2022 qu'on joue ce spectacle. Alors peut-être avant de rentrer dans les détails de cette création, je peux te dire qu'on est sur un répertoire de folk poétique, on aime dire les choses ainsi, sur des textes en français qui sont écrits par notre ami Pierre Daudet. Le groupe est situé plutôt sur les piémonts du Vercors, puisque une grande partie des musiciens habitent dans le parc, à Château-Double, Combeauvin, un peu plus loin à Cré. Moi, je suis en Chartreuse. Mais voilà, on est la montagne et la moyenne montagne et notre voisine, on la fréquente. On y va le week-end, on vient se ressourcer, on se promène, on passe des vacances là-bas. Donc cet élément-là, le Vercors était très présent dans notre nouvelle création qui s'appelle « Des oiseaux la nuit ». Et effectivement, alors je n'ai pas présenté les choses dans le bon ordre, mais en 2020, c'était le moment du Covid, puisque Marie-Odile en parlait aussi. On a terminé un spectacle à l'avant-veille du confinement. C'était la fin de notre tournée. Et puis, on a laissé passer quelques temps, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce moment-là, on ne pouvait plus jouer. On a peu à peu décidé de faire un pas de côté dans notre pratique d'artiste, de réfléchir à notre rapport au public, de notre rapport à la production et à la diffusion musicale. en se disant, en se demandant comment nous-mêmes on pouvait nous déplacer, agir pour nous mettre en transition peut-être, s'il faut dire les choses ainsi. En tout cas, ça a été très stimulant. Et c'est pour ça qu'on faisait de la musique amplifiée, on jouait dans des grandes salles, comme le font beaucoup de musiciens de musiques actuelles. Et là, on a décidé de proposer ce spectacle sans aucun micro, sans aucun éclairage électrique, avec l'idée de pouvoir jouer au plus proche des gens, au milieu d'une clairière, dans des sites patrimoniaux, au sommet d'une montagne ou dans des théâtres, évidemment. Et donc, depuis 2022, on a ce spectacle. Le fait de jouer acoustique, pour nous, c'est intéressant d'un point de vue musical, parce que, par exemple, comment faire passer nos textes? Donc, on s'est mis à chanter beaucoup. On a été obligé d'assumer la fragilité, les faiblesses de nos chants, de nos instruments, puisqu'on n'avait aucune... plus rien ne nous séparait, finalement, entre... le son de mon violoncelle et puis la personne qui allait nous entendre. Et puis le public aussi, du coup, est déplacé dans cette rencontre puisque il ou elle est obligé aussi de tendre l'oreille parfois, de devenir acteur de ce qui se passe. Et ce fait-là, il entend ou elle entend aussi les différentes sources sonores, nos chants, nos instruments. Et du coup, ça crée... une expérience souvent très forte, puisque c'est la musique qui s'exprime, c'est nos corps qui s'expriment, c'est une façon d'être au monde, comme le disait Véronique, il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité, du temps à vivre ensemble. Ce qui était très fort aussi au début, c'est que dans tous ces concerts qu'on a commencé à faire à partir de 2022, tout compte et tout influe sur tout. Et par exemple, jouer dans un lieu patrimonial ou une petite chapelle du XIIIe siècle ou dans une friche industrielle va nous raconter quelque chose. Et on a été très touchés à chaque fois des émotions, des histoires parfois que, évidemment, c'est de l'ordre de l'imaginaire, mais qui nous traversaient, de la même manière que la rencontre avec les publics qui nous entendent. Du coup, devient aussi très forte parce qu'on se parle d'humain à humain. Nous sommes évidemment en train de proposer des textes et une musique et des paysages sonores, des histoires qu'on raconte. Mais on a été surpris par l'intensité émotionnelle que pouvait provoquer ce spectacle.
Tu as commencé à parler des différentes rencontres aussi que vous avez pu faire, donc soit avec des territoires, des espaces là où vous faites des concerts. J'avais envie de vous demander comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire cette résidence dans le Vercors, une résidence itinérante, je crois. Vous êtes allé à la rencontre de pas mal de personnes différentes sur un temps assez long. C'est une démarche assez singulière. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être aussi certaines de ces rencontres? Comment est-ce que ça vous a touché? Comment est-ce que ça a rencontré votre processus créatif aussi, peut-être?
Ah oui, complètement. Puis ça va encore nous nourrir à l'issue de cette traversée, c'est évident. Le spectacle, on le joue depuis 2022, c'est ça. Donc on a eu la chance de faire 130 concerts. On a joué un peu partout en France. Mais dès le début, on était très intéressés, attentifs. On avait très envie de faire des... petite tournée de territoire. On est parti avec nos familles, tous nos enfants. Alors, c'était une joyeuse bande, mais c'était assez merveilleux. Et l'idée de faire un concert dans un village, puis le lendemain, 30 km plus loin, c'est pas des choses qui sont si habituelles. Et du coup, on a créé ce spectacle comme ça. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et puis, par ailleurs, on a créé le spectacle dans une cabane au fond des bois, je ne dirais pas où, mais au pied du Vercors. Et il se trouve que, en composant et en jouant ces morceaux qui se passaient sous la lune, qui parlaient du loup, qui parlaient du temps qu'il faut prendre, qui parlaient des temps qui changent, on rêvait de pouvoir les donner, les offrir sous la lune, au sommet du Vercors, par exemple. Donc ça, c'était présent dès le début. Et le parc a lancé un appel à proposition en fin 2023, si je ne me trompe pas. Et pour nous, c'était une évidence d'y répondre pour toutes ces raisons-là, parce qu'on était dans cette démarche de rencontre, de mise en mouvement
individuelle et collective. Et puis on est aussi des raconteurs et des raconteuses d'histoires, donc ça nous intéressait aussi beaucoup. Donc pour en venir à la résidence, alors ce que je peux raconter, c'est comment les choses se sont passées, c'est ça?
Puis comment cette question de la transition touristique, comment est-ce que vous l'êtes appropriée, puisque finalement je crois que c'était ça la thématique aussi
ah oui, bien sûr.
Qui vous était proposée, quoi.
Alors nous, on a eu envie de rencontrer des professionnels du tourisme. Alors, on n'est pas du tout des professionnels du tourisme, mais on a eu l'intuition qu'on traversait les mêmes mouvements, les mêmes difficultés, les mêmes désirs, peut-être les mêmes pratiques, adaptées bien sûr à nos différents métiers. Et ce qu'on a proposé au parc, c'est donc de, à la fois dans le temps d'immersion, c'est-à-dire pendant 6 mois, en fait, on a rencontré beaucoup de professionnels du tourisme. On a eu 3 rendez-vous collectifs disséminés un petit peu, enfin, au début, au milieu et à la fin, j'ai envie de dire, enfin, dans ce temps d'immersion, qui nous ont permis de rencontrer différents professionnels du tourisme. Mais surtout, on a eu envie d'avoir des entretiens individuels, donc avec principalement menés par Élodie Lordet, qui est chanteuse du groupe, moi-même, Elisabeth Renaud, et David Rebaud, qui est un illustrateur et qu'on a invité à venir avec nous sur l'ensemble de cette résidence. On est allé chez les gens, sur leur lieu de travail. Parfois, un samedi matin à 9h, les gens nous ont ouvert leurs portes. On a rencontré aussi, on a été hébergés par des inconnus qui nous ont vraiment ouvert leurs portes. Et la particularité, c'est qu'on est venu avec justement notre sensibilité artistique. Donc à 9h, on arrive et puis j'ai mon violoncelle. Élodie et moi, on se met à chanter une chanson. On a souvent proposé les 4 vents, c'est... Et David dessinait, et quelques minutes après nous a dit bonjour. Eh bien, souvent, on n'était plus du tout des inconnus les uns pour les autres. Et c'était intéressant parce que ça permettait de parler de ces questions, non pas d'un point de vue politique, technique, idéologique, qui peuvent très vite cliver les situations, qui sont intéressantes, hein, évidemment, mais plutôt de parler à partir de ce qui nous meut, nous touche, nous questionne. Et donc, on a eu des rencontres qui duraient parfois 3 heures. On était tous surpris, mais voilà, on n'avait plus trop envie de se quitter. Et donc, on a eu 25 entretiens, ces 3 rendez-vous collectifs qu'on a menés avec le parc. Et à partir de ce long temps d'immersion, on a aussi eu beaucoup d'échanges avec les élus et les techniciens du parc, et pour essayer de comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans le Vercors. On a réalisé d'abord un récit graphique et une exposition que maintenant on commence à diffuser, notamment dans le cadre de cette traversée des transitions touristiques qu'on réalise en ce moment.
Et tu viens de dire que voilà, ça vous avait permis de comprendre ce qui se passait dans le Vercors. Et comment est-ce que vous vous êtes emparé de ces entretiens, de ces rencontres? Comment est-ce que ça a pu vous toucher et quel est votre regard là-dessus en tant que collectif, collectif créateur, quoi, presque?
D'abord, on a été assez vigilants à n'apporter aucune réponse, ni à être un objet de communication. Nous, ce qui nous intéressait, ce qui nous intéresse peut-être, c'est plutôt de poser des questions et puis de prendre du temps pour faire la place justement à des formes de sensibilité. On a été très émus par ce territoire, par les gens qu'on rencontrait. Tout le monde, comme tu le disais, il y a un fort attachement viscéral. Le sentiment pour tous et toutes, tous les professionnels du tourisme qu'on a rencontrés, cette conscience d'appartenir et d'œuvrer dans le cadre d'un écosystème à la fois humain, relationnel, évidemment, on travaille les uns avec les autres, mais aussi avec cet environnement naturel, la montagne telle qu'elle se présente et qui façonne aussi une manière de penser son activité ou sa manière d'être au monde. Ça a été absolument commun à tout le monde. Ce qui était aussi très fort, c'est qu'on a rencontré des personnes qui peut-être avaient des points de vue différents, mais tout le monde disait à quel point justement l'action du parc et la nécessité de se rencontrer et de discuter et de s'écouter les uns les autres était importante. Au début, on a senti quand même des clivages, on est arrivé aussi à un moment particulier, mais finalement, c'est pas ça qui est tellement important. C'est plutôt, et puis on a rencontré énormément de gens, voilà, que moi j'ai appelé les ponts, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont en capacité de mettre en relation les uns avec les autres et qui voilà, ont cette force-là parce que la vision du Vercors, elle est à long terme.
Merci. Est-ce que Emmanuel ou peut-être Marie-Odile, vous voulez rebondir du côté du parc sur la manière dont vous avez pu vous aussi être surpris par cette résidence, par les retours de la résidence du collectif
Oui, moi je trouve que important ce qu'a dit Elisabeth, c'est aussi au niveau du questionnement, parce que c'est vrai que dès la première rencontre collective qu'on a eue en 2024, c'était... Les professionnels du tourisme qui étaient présents à cette rencontre collective, en fait, on s'est aperçu qu'ils se posaient énormément de questions, voilà, sur comment évoluer dans sa pratique professionnelle. Parce que, bon, il ne faut pas non plus oublier que le massif du Vercors, bon, c'est différents territoires. Et autant on parle d'une culture commune sur le territoire du Vercors, mais quand même, suivant les secteurs, voilà, il y a quand même beaucoup de différences. Et il y a des secteurs où la transition touristique n'est pas du tout entamée. Voilà. Et on a aussi des socioprofessionnels qui n'ont pas du tout entamé leur transition touristique. Voilà. Là, sont venus à ces rencontres collectives différents acteurs professionnels. La plupart se posaient des questions. Ils n'ont pas la réponse, mais ils se posaient des questions. Et nous, parc, ce qu'on voulait faire, c'est quand même valoriser ceux qui ont commencé leur transition touristique. On n'a pas les solutions, c'est compliqué. Bon, voilà, les quatre montagnes, on va résumer, voilà, c'est le ski. C'est quelques jours par semaine, il tombe de la neige, il y a énormément de monde qui fait du ski et ça fait partie de l'histoire du Vercors, hein, cette fréquentation pour faire du ski de piste et du ski de fond sur notre territoire. Et donc ça amène quand même des clivages parce qu'il y a des générations de professionnels qui vivent de ce tourisme. Alors certaines ne se posent pas du tout de questions, mais quand même on a des socioprofessionnels qui se posent des questions et ils étaient présents. Et c'était quand même très émouvant parce que personne n'avait la solution. Voilà. Et grâce justement à la musique, aux ateliers que Nomad a mis en place avec du graphisme, avec des contes, avec des jeux, avec Marine aussi, voilà, on a commencé à pouvoir échanger et ils ont pu parler, parce que là aussi c'est difficile pour eux de parler, parce que aller contre des choses qui se disent depuis des décennies, voilà, et se dire mais moi je me pose des questions, déjà ça c'était difficile, et en fait les arts vivants permettent quand même d'ouvrir ces portes.
Ouais, c'est aussi pour ça que quand on parlait de saisonnalité tout à l'heure, effectivement, on pense tout de suite à l'hiver et à la mono-activité. Et en fait, là où il y a une force et une force de proposition, c'est aussi dans l'offre culturelle et les différentes formes de rencontres, d'activités, d'imaginaires aussi qui sont présents. Là, on parle de concerts. Enfin, je sais qu'à Beauvoir également, vous accueillez une programmation culturelle. Et c'est aussi imaginer... Voilà, une autre offre touristique qui est peut-être aussi à destination des habitants, des habitantes, qui eux-mêmes vont rencontrer les touristes de passage et qui sont une richesse, qui nous apporte énormément d'ouverture culturelle, de rencontres, parce qu'on est quand même, le Vercors, il y en a certains qui le décrivent comme une île. Tout le monde connaît tout le monde, on tourne vite en rond. Et c'est une richesse aussi qui est de rencontrer des nouvelles personnes. Je ne sais pas si ça vous ouvre des réflexions ou des retours d'expérience là-dessus sur... une offre culturelle à destination tant des personnes de passage que des habitants.
Si, c'est important. Et je pense qu'au-delà de ça, on est surtout des créateurs d'espace de ces rencontres-là. C'est-à-dire que nos lieux, ils ont la capacité de recevoir et donc du coup de mettre en conversation. On est un petit peu les entremetteurs entre un public et le territoire qu'on représente. Et quoi de mieux que l'émotion qu'on fait passer dans les spectacles qu'on invite pour parvenir à ça et à rendre amoureux les gens qui passent ou qui y habitent le territoire qu'on fréquente. Mais c'est un territoire très particulier en plus, parce qu'il est à la fois montagnard, il est rural, mais aussi bien desservi. Donc il y a aussi de l'urbanité qui vient y faire un tour, où on peut aller vers l'urbanité. Donc on a tous ces discours qui peuvent se confronter, se renvoyer la balle, se renvoyer la parole. Et c'est en ça que c'est très riche. C'est là où ça devient très intéressant. Et on n'en est jamais dans une finalité autocentrée. Et ça, c'est primordial, je pense.
Et c'est une belle richesse aussi. Marine, est-ce que tu voulais un petit peu rebondir sur la complémentarité des approches? Pendant la résidence, tu disais que... Enfin, c'est Marie-Odile qui disait que tu avais proposé des ateliers en complément. Est-ce que ça permet également d'avoir d'autres types de rencontres, d'avoir cette démarche-là, en complément, je veux dire, des arts vivants?
Je trouve que c'est super complémentaire. Moi, je travaille souvent seule en tant qu'indépendante, mais j'aime vraiment créer des liens. Et je trouve que c'est toute la richesse de ce métier. Donc, il va y avoir un gros focus que je vais faire sur toute la biodiversité, la richesse, comme c'était le cas avec les papillons. On va aussi avoir des balades comptées sur les arbres extraordinaires qu'il y a dans le Vercors, tous les arbres remarquables. Et voilà, par exemple, d'avoir l'approche de David qui va permettre justement d'observer pour pouvoir dessiner, mettre de la couleur, y aller avec ce qu'on est, quoi. Ça crée des choses en plus. Voilà, et puis quand on voit un arbre et qu'on apprend à découvrir cet arbre aussi à travers une légende locale, ça apporte aussi une plus-value sur certaines traditions qu'il y a eu par le passé. Enfin voilà, c'est que des plus-values.
Ouais, c'est de la transmission aussi, à la fois entre générations et puis personnes qui habitent, personnes qui n'habitent pas à l'année, en tout cas dans les lieux. Et ces balades, c'est aussi des manières... j'ai l'impression que ça peut être une manière aussi pour les habitants de redécouvrir un lieu, un concert, une programmation culturelle. C'est aussi l'occasion de franchir à nouveau, peut-être depuis 5-10 ans, on n'a pas mis les pieds au couvent des Carmes, on a fait la visite. Mais en fait, il y a toujours un prétexte pour aller le revoir, ce lieu. Ça, c'est quelque chose qui me paraissait important. Et moi, j'ai une question aussi peut-être pour la Galicière qui nous accueille ce soir. Là, ce soir, vous accueillez donc un concert. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau?
Alors, on a la chance de faire partie de la programmation des Alléchantes depuis 14 ans maintenant.
Et c'est quoi vrai. Les Alléchantes?
Alors voilà, c'est un projet de concert, 80 concerts dans toute l'Isère, un projet dans le cadre donc les Alléchantes sont portées par AIDA et le département de l'Isère. Et donc ce sont des concerts dans des lieux patrimoniaux et de musique, on va dire plutôt musique du monde, en tout cas locale. Donc du coup, ça nous permet d'accueillir des spectateurs lors d'un concert, on va dire de façon gratuite. Et ça, c'est important, hein, la culture pour tout le monde. Et l'association propose toujours de très bonnes assiettes avant ou après le spectacle. Mais ça, maintenant, ça commence à se savoir aussi.
C'est important.
Voilà, donc ça, c'est la première chose, hein, les Alléchantes. Et on espère que ça va durer encore longtemps. Et parallèlement à ça, on développe, on va dire, une activité, on va dire, plus de résidence, mais d'artistes d'art contemporain, puisqu'on a une qui vient de se clore il y a vendredi dernier par le vernissage de l'exposition de Sarah Favriot. Oui, samedi, pardon. De Sarah Favriot, qui est une artiste qui est venue travailler à la Galicière pendant 3 semaines. Et donc, voilà, maintenant, on va faire en sorte de faire connaître cette œuvre.
Et pour rebondir un peu sur les différents échanges, c'est aussi un des échanges qu'on a eu hier en fin de table ronde à Saint-Jean-à-Royan, c'est de constater que sur le territoire... Alors, je ne sais pas si Beauvoir fait partie du parc.
Oui.
Oui, d'accord. Mais je dis, vous avez beaucoup de chance.
Donc, on est en face et dedans, nous.
En face. Et que peut-être ça pouvait être un nouveau produit. Je ne sais pas s'il faut employer ces termes, mais en tout cas, nous, en tant qu'hébergeurs, pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup de passages, beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui nous ont même des fois interrogés en disant « c'est les Pyrénées ». Donc pour dire à quel point nous, ils sont plutôt attirés par ce qu'ils ont vu. Ils ont vu une photo, ils veulent voir ce qu'ils ont vu, mais ils ne connaissent absolument pas le territoire. Et je pense qu'il y a un maillage à faire et on le sent émergent. L'autre chose qui pour nous est aussi vraiment très valorisante, c'est de voir que moi j'ai quand même grandi face au Vercors, mais le Vercors c'était quand même la résistance, on découvrait encore des armes, enfin, ça faisait peur, c'était un peu triste. C'était... Et aujourd'hui le Vercors, non, c'est un des lieux les plus hip, il y a des routes vertigineuses phénoménales et je pense qu'il y a un maillage à faire autour de... On va dire l'art, il y a effectivement Beauvoir, l'art solide, n'en parlons même pas, il y a le bateau ivre, la fabrique des ludites, la halle, bien sûr, la halle de voilà. Et donc nous, on essaye aussi de venir s'inscrire dans ce maillage pour qu'il y ait des gens qui puissent avoir envie de venir au moins 2 ou 3 jours. Et je suis d'accord que de toute façon, le format semaine, ça va être de plus en plus compliqué, mais donc au moins 2 ou 3 jours. Et pour cela, il faut qu'il y ait quelque chose...
Mais c'est très important ce que tu dis, et je pense même que ça peut aller au-delà du simple... au-delà de l'hébergement à la semaine ou aux 3 jours, mais c'est tout un travail politique aussi qui est mené. Alors, à l'échelle de l'Interco, ici, c'est certain. Il y a ma collègue Laetitia qui est dans la salle, qui nous écoute là et qui s'occupe de l'éducation artistique et culturelle à l'échelle du territoire. Et c'est tous ces enjeux-là de comment on fait venir ou comment... Alors, soit on fait venir le public vers la culture ou soit on fait venir la culture vers le public. Et c'est... On parlait tout à l'heure en off des questions de transport, qui était un peu une tannée pour tout le monde, etc. Mais tous ces enjeux-là, ils s'imbriquent. Et c'est comment on rend vivant un territoire par ces propositions culturelles? Comment on arrive à apporter la réflexion sur les enjeux qu'on mène aujourd'hui à des populations qui sont peut-être éloignées des pôles où ben, il y a une Galicière, il y a un couvent des Carmes, où il y a une halle de Pont-en-Royans, dans des endroits, dans des villes qui sont vraiment tout petites, où il n'y a pas ces espaces-là qui créent la rencontre et la conversation. Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont très importants aussi à mener aujourd'hui.
Oui, peut-être à rebondir aussi. Le tourisme, il doit évoluer. Et c'est sûr que sur le Vercors, l'ADN du tourisme, ça a été les paysages, les activités de pleine nature. Parce que ça a été vraiment quelque chose qui a structuré fortement le tourisme du Vercors. Et l'un des enjeux maintenant, ben, c'est de dézoomer un petit peu. C'est un extraordinaire décor, les paysages, les activités de pleine nature. Mais en fait, on ne voit pas ce qu'est réellement le Vercors. Il y a des gens qui vivent, qui font des belles choses. Il y a des artisans d'art, il y a des producteurs, il y a de l'accueil à la ferme, il y a une manière de manger, il y a des cultures différentes. Il y a des artisans d'art, donc comme je disais, il y a des lieux de culture étonnants. Et peut-être que l'un des aspects de la transition touristique aussi, c'est que dans la promotion, en tout cas touristique, qui est faite, on puisse finalement montrer les gens, les structures qui font l'identité du territoire. Et dans le Vercors, il y a plusieurs Vercors. La Com-Com de Saint-Marcellin, c'est pas la Com-Com du Trièves, vraiment. Et chacune a son identité propre. Les Quatre Montagnes, c'est pas Vassieux-la-Chapelle. Et ça, c'est une chance qui est extraordinaire, parce que sur un massif géographique qui est totalement connu, je veux dire, on voit le plateau, on voit les piémonts, en fait, tous les Vercors sont dans le Vercors. Et c'est peut-être l'un des aspects de la transition, ça va être ça, c'est de se relier à davantage d'humains, c'est-à-dire revenir à ce qui fait l'identité de chaque région naturelle du Vercors, pour lui donner ce grain, cette identité, et aller dans des lieux comme la Galicière, aller faire la route des savoir-faire du Trièves, où on va à la Poulainerie, le Théâtre de Poche, des choses comme ça, qui sont étonnantes et qui font la réalité des lieux. C'est ça, on évite... Enfin, le Vercors l'a très peu fait, mais il faudrait encore le faire davantage. Il ne faut pas aller dans de l'artificiel. Il faut vraiment partir des gens qui font le territoire, qui le construisent, chez qui je peux aller acheter à manger directement, comprendre comment ce produit est fait. Des gens qui retapent voilà, des lieux comme ça, qui prennent le temps voilà, de nous mettre un peu de la beauté dans les mains et qu'on puisse l'apprécier. Ça, c'est un enjeu qui est très fort. Là, je vous parle de ça, c'est du sensible. Hein, ça ne se palpe pas, mais si, ça peut se palper dans des brochures, dans l'organisation d'une stratégie touristique, comme on dit, dans des politiques locales également. Donc on voit qu'il y a tout ce temps-là aussi à construire devant nous. Ça fait partie de la transition touristique.
Elisabeth ?
Non, je voulais juste rebondir pour effectivement aller dans le sens de ce qui est dit.
dans tous les entretiens qu'on a eus, on parlait de tourisme de la relation. En réalité, c'est vraiment... Et de la proximité, du faire et du vivre ensemble, avec l'idée vraiment d'habiter le Vercors qui dépasse largement l'idée de consommation. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun. Ça ne veut pas dire qu'on, voilà, qu'on vit en ermite. Mais ce tourisme de la relation, cette manière d'être... Dans ces écosystèmes, parce qu'ils sont pluriels, et communs à tout le monde.
Et je rebondis, je me permets de reprendre la parole. Donc, l'Observatoire régional du tourisme fait beaucoup de travail d'enquête, d'analyse sociologique notamment, et confirme ça, c'est-à-dire que les gens qui viennent, alors dans le Vercors ou ailleurs, ils ont besoin de comprendre où ils mettent les pieds, comprendre comment on vit, qu'on leur explique ici comment on vit. Ils ont besoin du mode d'emploi. J'aime bien les réseaux sociaux, c'est pas un problème, mais la relation humaine directe, elle a aussi une très grande force. Et c'est à nous, Office du tourisme, parc, habitants, accompagnateurs en montagne, comme tu disais bien tout à l'heure, Marine, de faire ce lien-là directement, de donner les clés de compréhension du territoire. Et la transition, ça passe par beaucoup d'humains finalement, que ce soit de l'humain politique, de l'humain économique, mais pas que, de l'humain de prestations. C'est le modèle économique, c'est pas gênant ce que ça nous permet de vivre ici, mais c'est au-delà du modèle économique, comment on accompagne les gens dans cette découverte-là. Et c'était intéressant, parce que j'aimais beaucoup ce que disait Jacques Chancel quand il faisait l'émission Le Grand Échiquier. On voudrait essayer de donner à voir des choses dont les gens pourraient peut-être avoir envie. Et notre rôle, c'est ça aussi. C'est de montrer à voir notre Vercors et dire peut-être qu'il va faire envie aux gens, ils vont avoir envie de s'arrêter et de le comprendre un peu mieux. Ils peuvent le comprendre qu'avec nous.
Voilà. Je prends juste le relais, il y avait une phrase que j'avais trop envie de caler, et là ça marche. quand tu dis donner envie et tout ça, je trouve que dans le métier d'accompagnateur en montagne, alors je vais citer Baptiste Morisot parce que les créatures fabuleuses... On est complètement dedans et ce qu'il essaye d'exprimer, c'est que on imagine souvent que les créatures fabuleuses, ce sont des monstres, des licornes à paillettes et tout ça. Bon, j'embellis un peu le truc. Mais que finalement, en fait, dans le Vercors, y a des renards, il y a des loups, il y a des fleurs extraordinaires et même des arbres. Et c'est tout autant des choses fabuleuses. Et si on prend le temps, en fait, donc il parle beaucoup de pister quand on piste... d'observer, on arrive à voir du merveilleux là-dessus et je trouve que c'est donner du merveilleux, même si on n'est pas artiste, on peut aussi le transmettre d'une autre manière, en s'arrêtant sur les petits détails qu'il y a dans notre beau massif.
Je réagis parce que moi aussi j'avais envie de parler de Baptiste Morisot. Non mais évidemment...
Il habite pas loin.
Et il habite pas loin. on parle de la crise... Il parle d'une crise de la sensibilité. Et c'est vrai que peut-être c'est ce qui nous réunit tous et toutes. C'est qu'on est des artisans de la sensibilité, de la rencontre et de créer des espaces pour pouvoir se rencontrer, s'écouter, être attentif à ce qui nous entoure, être attentif à nous autres humains aussi. Et voilà, je trouve que c'est bien de parler de lui aussi et de tous ces penseurs qui pensent le monde qui vient.
Et la transition est toute trouvée pour rappeler aussi la suite de votre tournée, parce que tu dis, quand tu parles de créer des espaces pour se rencontrer et s'émerveiller, j'ai un peu l'impression que c'est un peu le fil rouge de votre tournée que vous mettez en place. Donc là, on est à la troisième étape, c'est ça, aujourd'hui ?
Oui, alors on a commencé... Alors, notre tournée... Le livre et l'exposition s'appellent « L'horizon pour s'étendre ». Je le dis parce que tout à l'heure, il y a cette idée de regarder l'avenir. Voilà, c'est un peu... j'y ai pensé aussi à partir des propos d'Emmanuel. Il y a vraiment l'idée de... On quitte le XXe siècle, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on l'a quitté, avec tout son héritage. Le tourisme s'est développé depuis la fin du XIXe siècle, enfin voilà, et surtout XXe siècle dans le territoire du Vercors. Mais là, aujourd'hui, on est en 2025, il faut construire le monde de demain. C'est pour ça qu'on a eu envie de reprendre ce titre qui est dans l'une de nos chansons, « L'horizon pour s'étendre ». Donc aujourd'hui, c'est une traversée des transitions touristiques pendant une quinzaine de jours. On a commencé effectivement sur le plateau de la Molière le 5 juillet, donc il y a deux jours, au matin. Et hier, nous étions à l'Arsolite, ce soir à la Galicière. Donc à la fois, il y a des temps de rencontres, de débats, des animations familiales en après-midi, des randonnées, des concerts... et des temps pour rencontrer l'exposition, le livre. Voilà, il y a plein de choses. Tout ça, c'est sur les sites internet du parc, du Vercors et de la structure qui accompagne Nomade, qui s'appelle La Curieuse. Et puis sur les réseaux sociaux, parce qu'on est moderne aussi. Et on propose une douzaine de concerts et de rencontres et de discussions et d'animations sur différents territoires du Vercors. Demain, nous irons à Rochefort-Samson. On continue, merci. On va aller à la ferme du Péché à Amblaise, on va aller avec le théâtre de Die, on va faire une toute une journée qu'on va
pédaler.
Où on va pédaler, merci. On va aller au musée de la préhistoire à Vassieux, à Fondurle, à la Grange Ouverte. Voilà, on termine avec le domaine des Hauts-de-Glace dans le Trièves. Donc on a un très beau parcours et on invite vraiment toutes les personnes qui ont envie de venir discuter avec nous, faire des étapes à vélo avec nous, parce qu'on est à vélo, évidemment, puisqu'on est un peu fou, pour se rencontrer.
Et Radio Royan-Vercors se chargera de rappeler, justement, chaque jour, les différentes étapes que vous allez avoir. Et ce que je remarque aussi dans cette tournée, c'est qu'il y a une grande diversité de lieux dans lesquels vous allez aller. Tu parles du camping, tu parles de sites naturels, tu parles de monuments historiques. Il y a vraiment une grande diversité et j'ai l'impression que ça reflète aussi la diversité des hébergements qui sont proposés sur les territoires. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose à cette table ?
Oui, sur la diversité, en effet, si on remarque bien, on va un peu partout sur les différents secteurs. Là, et on va aussi chez des socioprofessionnels différents, dans des granges, dans des campings, dans la nature, dans des refuges. Voilà, et pour justement montrer la diversité de notre territoire. Et voilà, c'est pas simplement des lieux de culture, c'est aussi, ça se passe aussi dehors, dans la nature. Et je crois que tu n'en as pas parlé, mais il y a Château Julien, le 17 juillet, hein, ça sera magnifique, ça sera le soir, sous un ciel étoilé et en pleine nature, sur la commune de Villard-de-Lans.
Merci Marie-Odile.
J'avais envie de rebondir une dernière fois sur ce mot sensibilité qui a été utilisé plusieurs fois, qui nous rassemblait. Et parfois ce mot, il est connoté dans notre société comme quelque chose de vulnérable, de fragile. Et ce soir, on est tous et toutes en train de souligner à quel point ça peut être une boussole aujourd'hui et pour demain.
Ben, merci beaucoup. On peut ouvrir la discussion avec un petit temps d'échange avec le public. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont envie de rebondir sur des choses qui ont pu être dites ce soir, à la fois pour les différents acteurs autour de la table, les professionnels du tourisme, le parc, Nomade.
J'ose demander quelque chose. Je suis dans la région depuis 50 ans, par ici. J'ai arpenté le Vercors à pied, etc. Un petit peu l'hiver, les blanches et tout, mais c'était pas trop mon truc. Ce que je regrette, je ne peux plus conduire, donc j'y vais beaucoup moins, mais je regrette, je suis tous vos documents. Je trouve que la partie donc, que nous avons, puisque nous sommes en face ici, jusqu'à Fondurle et au-delà, l'automne n'est jamais mis en évidence comme il pourrait l'être. La beauté du Vercors, de cette partie de forêt, on insiste beaucoup sur l'hiver, sur l'été, et même je trouve que d'année en année, moi qui l'ai arpenté énormément à l'automne, je pense que ce côté automne n'est pas mis dans les documents qu'on a, etc. C'est un peu dommage parce que l'automne dans cette partie du Vercors, je ne connais pas assez le tunnel et tout, je ne peux pas en parler, mais d'ici.
Donc. J'essaye de résumer une réflexion donc, sur la manière d'arpenter les saisons au sein du parc naturel régional du Vercors, arpenter notamment à pied, d'après ce que je comprends bien, et cette importance de l'automne qui ne serait pas assez mise en valeur, assez montrée, assez soulignée, cette saisonnalité de l'automne.
Ça me permet oui, de mettre en avant le fait que cette année, on fête les 40 ans de la réserve des hauts plateaux et qu'il va y avoir des manifestations les manifestations, des animations ont commencé au printemps et puis cet été, mais il y en aura surtout en automne, il y aura une tournée sur les différents secteurs du Vercors et ce sera à l'automne, ça commencera au mois de septembre, octobre, novembre et décembre, voilà, il y aura Et avec toujours une compagnie, voilà, une compagnie qui s'appelle le Champ des Pistes, hein, qui nous accompagne sur ce projet du parc.
C'est vrai que toutes les saisons sont belles par ici, ça va être dur de c'est dur de pas en parler. L'automne est magnifique. Marine, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Je t'ai vu avoir des grands yeux, tu as l'air d'apprécier l'automne.
J'adore l'automne, il y a plein de fruits. On peut grignoter dans la forêt avec les enfants, c'est pour ça que j'aime bien, parce que le sensible, ça passe aussi par le goût. l'automne, il y a quand même une fréquentation, une belle fréquentation. Je travaille aussi beaucoup avec les scolaires. C'est vrai que le Parc du Vercors propose des projets avec des thématiques aussi pour les scolaires. On n'en a pas forcément parlé parce qu'on parle du tourisme, mais c'est aussi les adultes de demain et je trouve que ça a toute son importance. Par exemple, on fait des projets avec le Gilles Paillette Barbu et c'est des projets qui s'étalent sur l'année et on les entame dès le mois d'octobre. Voilà, et c'est tout au long de l'année, donc automne, printemps, je suis un peu à l'envers, hiver et été, voilà, et c'est en lien aussi avec des artistes, donc c'est aussi une belle expérience qui permet aux enfants d'avoir cette touche sensible et de retranscrire, valoriser tout ce qu'ils vivent.
Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le public, des réflexions à partager, des anecdotes? Ça va?
Donc, simplement, pour finir, moi, je dirais, rappeler que un parc naturel régional, c'est pas une communauté de communes, c'est pas une commune, hein, c'est un petit peu différent. C'est un lieu, c'est une structure où on doit expérimenter. Voilà, donc, on est parti sur ce projet, qui est quand même un projet audacieux, voilà, qui rassemble culture, tourisme, nature, et on a pu le faire parce qu'en fait, un axe primordial d'un parc, contrairement à une communauté de communes ou une commune où il y a quand même le quotidien, nous aussi, c'est d'ouvrir des portes et d'expérimenter. Et sur ce projet, bon, l'horizon pour s'étendre, je pense qu'on est dans nos enjeux et dans le cœur de nos missions.
Ouais, et puis ça vient. C'est vraiment une belle image pour lier réflexion collective au sein de l'institution et des différentes communes du territoire et de l'action de terrain où concrètement il se passe des choses avec les habitants, avec les acteurs du tourisme. Et on y travaille, quoi. On s'approprie tous et toutes cette question-là. Merci beaucoup à toutes et tous pour cette table ronde donc, qui était accueillie à la Galissière, donc dans le cadre de la troisième étape de la tournée de Nomade, qui est en résidence actuellement, enfin, qui va conclure sa résidence. Une tournée qui a retrouvé évidemment tous les détails sur le site internet du Parc naturel régional du Vercors. Ils doivent aussi être sur les sites internet des offices de tourisme, qui sont évidemment partenaires. Cette table ronde, vous pourrez la retrouver sur le site internet de radioroyan.fr. On va la mettre en ligne. Elle sera également disponible sur les plateformes de podcast, puisque Radio Royan s'est aussi mis au podcast, donc Spotify, Deezer et compagnie. Et puis, nous, on va se charger de relayer, évidemment, les différentes étapes de votre tournée, les différentes infos aussi de vos structures, puisque l'été, on anime un magazine estival. C'est un magazine où on relaie les différentes propositions culturelles, les activités et les sorties à faire sur le territoire. Et c'est aussi un magazine qu'on a décidé d'adresser cette année aussi aux habitants. Donc c'est aussi inviter les habitants, parce qu'il y en a beaucoup qui restent dans le Royan Vercors l'été, parce que c'est une super région à vivre l'été également. Et donc voilà, on va relayer tout ça. Merci beaucoup à toutes et tous.
Merci.
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 Merci beaucoup.
Et on se retrouve tout à l'heure pour le concert.
Merci.
Merci.
Après courir, se courber, souffrir et sourire après. À vouloir en gagner à tout prix, se priver de goûter la vie. À prier l'avenir de se plier en quatre et se ramener vite. À vivre vite et mourir et se dire oh c'est passé trop vite. C'est passé trop vite. À ceux que le temps presse, ils n'auront pas le temps. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent. Que le temps presse, ils n'auront pas le temps. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent. C'est c'est quoi, dis, c'est combien? On dit ça vaut tout, on dit ça vaut rien. Et si on fait rien, qu'on fait rien, non rien. Rien d'autre qu'être là, accueillir et cueillir l'instant, se faire cueillir aussi, ralentir et tirer, tirer au flanc. Et sans lécher les doigts
à ceux que le temps presse, ils n'ont pas pris leur temps. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent. À ceux que le temps presse, ils n'ont pas pris leur temps. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent.
Et tu me fais le coup du coup de feu. Tant de choses sur le feu que tu dis. Feu au cul, redis-le que je ris. Allez, éteins tout et croque dans le fruit. Le savourer comme il vient, ne rien attendre, mais s'avouer qu'il s'enfuit. Toutes les choses ont une fin, mais le prendre et le rendre infini. Comme un air qu'on respire, s'arrêter, voir la ligne qui s'étire à l'horizon, nos rêves des phares pour éclairer nos vies.
Et ceux que le temps presse n'auront pas eu le temps. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent. Et ceux que le temps presse pas eu le temps. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent. Le temps est une caresse aussi chaude que le vent.